podcast@buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Sacha Roche-Dézensky.
Bonjour.
Vous publiez deux nouveaux disques, quasiment simultanément, programme assez différent. D'abord un disque, une intégrale des œuvres pour violon et piano de Tchaïkovski, qui sort chez Delos avec Josiane Marfurt au piano. Et également publié chez Praga un album Ravel, d'œuvres de chambre toujours avec le même pianiste et également Michel Kanka violoncelle.
Oui, tout à fait.
Alors, la particularité notamment du Tchaïkovski, c'est qu'il y a une pièce inédite. C'est quelque chose d'assez particulier, puisque c'est une « Au chante encore », puce 16 numéro 4, donc écrit par Tchaïkovski, qu'on croyait disparu, et que tel Indiana Jones, vous avez retrouvé. Alors racontez-nous un peu cette histoire à la Bibliothèque Nationale, je crois, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc c'est forcément, c'est très lié à Paris.
Et préciser que vous habitez à Paris, oui, maintenant depuis, ouais, plusieurs années.
Ouais. Et donc, dans l'édition des œuvres complètes de Tchaïkovski publiée en Union soviétique, il y a 60 volumes qui étaient publiés pendant des périodes de quinzaine d'années. Dans le préface de l'édition des volumes pour musique de violon piano, c'était marqué que ça existe, cet arrangement original de Tchaïkovski de chant encore, mais il est considéré perdu. Donc, la partition de Jürgensen à l'époque, qui publiait le Tchaïkovski, c'est disparu, il n'avait aucune copie qui est restée. Et, mais j'ai souvenu qu'il a eu un éditeur parisien, il s'appelait Félix Macquart, qui a acheté en 1885, il a acheté le droit pour le France et Belgique sur le Tchaïkovski. Il a publié cette romance justement arrangée parce qu'il y a trois arrangements aussi pour le, donc l'original aussi pour le voix, arrangement pour le piano sol et violon piano. Et donc je suis allé à la Bibliothèque Nationale pour demander, j'ai trouvé ces partitions avec le parti de violon inclus.
Donc vous y aviez été spécialement pour ça, c'était pas par hasard, un hasard, vous n'êtes pas tombé sur cette partition par hasard.
J'ai fait le recherche de Beethoven à l'époque et j'ai voulu justement, au cas où, s'il y a cette œuvre de Tchaïkovski. Voilà.
Cet aspect justement de recherche, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de vos envies, ça dépend, c'est plus en fonction évidemment des,
non,
des
pas,
disques
pas,
ou des préparations. De,
pas vraiment, ouais. Non. J'étais intéressé par des arrangements de Beethoven à l'époque, de sonate de violoncelle qu'il a. Qu'il a arrangé pour le violon, vraiment lui-même aussi. Voilà.
Comment est né justement donc cet album Tchaïkovski à l'origine, c'est quelque chose, c'était une idée que vous aviez en tête depuis longtemps. Comment s'est fait ce choix de ce programme?
Oui, ça fait longtemps. J'avoue que j'adore Tchaïkovski comme beaucoup de autres musiciens, j'imagine. Et, ça fait longtemps. J'avais envie d'enregistrer. les morceaux précédents parce que c'est très peu joué à part de Valscherzo, de Sérénade alcoolique, Souvenir de Cher aussi, de temps en temps, Mais en intégrale, ça existe presque pas.
C'est important pour vous justement de choisir par exemple un programme comme celui-ci, peu enregistré, plutôt que de proposer comme... c'est vrai qu'on sait que la quantité de sorties discographiques, certaines œuvres ont été enregistrées des centaines, des milliers de fois. Est-ce que choisir justement des programmes parfois un peu moins enregistrés, c'est quelque chose d'important ou pas spécialement? C'est plus une...
Non, pas spécialement.
Pas spécialement. Pour une œuvre, mais est-ce que ça peut aussi...
Non, c'est surtout ce que j'avais envie de jouer à Tchaïkovski et je n'étais pas spécialement attiré par trouver quelque chose, un truc qui m'est inconnu.
Comment ce Josiane Marfut, pianiste suisse avec laquelle vous travaillez depuis longtemps, c'est important pour vous justement d'établir une relation, surtout notamment en musique de chambre, avec quelqu'un sur la longueur?
Oui, tout à fait. Mais aussi, bien sûr, c'est très intéressant de jouer des pour enregistrement, je trouve que c'est très important de jouer avec quelqu'un qui on connaît bien, avec quelqu'un on s'entend très très bien. Mais par contre, pour le concert, c'est toujours fascinant de découvrir l'œuvre en jouant avec des musiciens différents. Parce que ça prend tout à fait des autres dimensions, la musique change, l'interprétation change.
Et alors, sur cet autre album, donc autre compositeur, c'est différent, Ravel. Pareil, même question, un peu l'origine de ce projet discographique. Comment est-il né cet album Ravel?
C'est Pierre-Émile Barbet qui m'a proposé d'enregistrer l'intégrale de Ravel et j'étais très touché par sa proposition. Surtout, comme je ne suis pas français de nationalité. Moi, j'étais très touché parce que j'ai essayé toujours de battre cette idée que c'est le représentant du pays original
qui doit... Les Russes et les Français ne jouent pas.
Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, à Moscou, pendant le concours Tchaïkovski, il y a toujours des gens qui disent que, cette pianiste américaine, il joue très très bien, mais par contre, il ne peut pas jouer Tchaïkovski. Non, Tchaïkovski, c'est que le russe. Et bon, il a un peu la même chose en France avec Ravel. Donc j'étais très touché que Pierre-Émile m'a demandé de faire l'intégrale de Ravel.
Est-ce que justement cette idée d'essayer de briser justement un peu, pas ce tabou, mais cette préjugé sur tel musicien doit jouer, enfin est plus à même de jouer, vous qui êtes né à Moscou, on parle école russe, on parlera, est-ce que pour vous, est-ce qu'une école russe a encore une signification en 2011, vous êtes, évidemment vous êtes issu d'une famille où la musique est ancrée, on va dire, dans les gènes, dans l'ADN depuis longtemps, votre père illustre chef d'orchestre, qui a vécu sous l'époque soviétique, etc. Vous, ensuite, vous êtes parti, vous êtes venu à Paris, vous avez étudié au conservatoire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ou j'allais dire, après la chute du système soviétique, où les musiciens ont peut-être plus voyagé, ont peut-être plus amène d'ouvrir leurs oreilles et leur champ de vision, c'était quelque chose qui était essentiel pour vous, justement, cette ouverture d'esprit, et de, même si vous êtes en partie, vous êtes russe, donc vous avez votre personnalité, votre âme et votre sensibilité musicale, de justement d'aller vers d'autres sonorités, d'autres sensibilités musicales?
Bien sûr, mais moi je pense que ça, c'est beaucoup au-delà de la musique, de l'école, comme l'école russe, oui, bien sûr, ça... Ça existait, je ne peux pas dire que ça existe toujours, mais je pense que c'est plutôt j'étais toujours à la recherche, si vous voulez, de sensations liées à ces musiques. Par exemple, je ne crois pas qu'on peut, effectivement, je ne crois pas qu'on peut jouer de la musique de Ravel sans avoir été à Montfort-l'Amérie, sans connaître les peintures des impressionnistes français, même, bon... Ravel était toujours contre qu'on l'appelle impressionniste, mais à voir qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là dans ces pays. Donc moi je pense que c'est beaucoup plus important qu'avoir du sang.
Est-ce que cette ouverture, d'esprit, cette envie justement d'ailleurs, ça vous vient... Est-ce que c'est votre père par exemple qui vous a transmis ça? Votre père qui était aussi, qui jouait, on sert des compositeurs même contemporains de son temps, même on en parlera avec vous, vous jouez aussi des... la musique contemporaine.
Oui.
D'où vous vient cette ouverture d'esprit? Où c'est vous-même? Comment ça s'est passé, cette volonté de...
Je sais pas d'où ça vient, c'est le...
C'est l'éducation.
Peut-être bien, peut-être l'éducation, peut-être l'expérience. J'adore voyager, j'adore voir de nouvelles choses, de découvrir le monde à travers de la musique, de la littérature, de la poésie. Et de...
Alors justement, la musique contemporaine, vous en jouez. Pouvoir travailler parfois ou communiquer avec un compositeur vivant, c'est quelque chose de particulier, d'important?
Oui, bien sûr, c'est très important. Mais je me concentre pas spécialement sur la musique.
Non, bien sûr, mais vous, ça fait partie de
non, oui,
tout ce que vous avez.
Oui, j'avais de la chance de très bien connaître Alfred Schnittke, qui était ami de famille. On a passé plein de réunions de Nouvel An ensemble. J'ai reçu un cadeau de sa part pour mon anniversaire. Il m'a offert un magnifique polka, que je joue d'ailleurs toujours, comme bis.
Et justement, mais par rapport à, est-ce que pour vous c'est quelque chose d'un certains vieux, certains musiciens, certains solistes se contentent de jouer les répertoires du passé. Est-ce que ça reste essentiel pour vous de jouer de la musique de son temps ou pas obligatoirement?
Ah, c'est difficile à dire. Non, pas obligatoirement. Non. Moi, certains.
Il y a beaucoup de musiciens qui sont si. Pour eux, c'est vraiment important. Il faut non pour
en fait, j'ai ressenti toujours cette grande nostalgie du début du XXe siècle que j'ai jamais vécu, mais toujours cette image, parce que j'adore par exemple les violonistes comme Kreisler, Ehudi Menuhin, avec qui j'avais chance de jouer pour lui quelques fois et connaître un petit peu, et Ivry Gitlis, cette ancienne génération de grands violonistes ainsi que le pianiste, par exemple. J'ai jamais entendu quelqu'un jouer comme Rachmaninoff ou comme Horowitz. Et maintenant, cette sensibilité est, on peut dire, changée un petit peu.
Ça vous rend triste, enfin, c'est quelque chose, la façon dont vous en parlez, il y a un côté un peu nostalgique, un petit peu...
Quelque chose qu'on
ne pourra jamais plus...
Ouais. Moi, je trouve que ça vient à cause de cette... perfectionnisme qui règne dans la musique classique aujourd'hui, peut-être à cause de grande quantité de compétitions, de concours internationaux dans lesquels si on ne joue pas très très carré, si vous voulez, on n'a pas de chance de passer de deuxième rang. Donc c'est pas et dans ces conditions, malheureusement, le côté individuel, le côté de sensibilité, si vous voulez, ça disparaît.
Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous, qu'on soit arrivé à une situation comme celle-ci?
Je trouve qu'il y a beaucoup trop de concours. D'ailleurs, ça ne devrait pas exister, à mon avis. Parce que dans l'art, en général, on ne peut pas
faire... Art et concours, c'est quelque chose qui ne vont pas normalement ensemble, une compétition avec un...
On peut pas faire des compétitions, ça n'a rien à voir avec l'art, en général. Thank you.
La musique de chambre, c'est quelque chose qui compte pour vous. Vous en
oui, tout à fait.
Beaucoup. Ouais. C'est une passion qui a commencé très jeune. Ça s'est fait progressivement.
Non, malheureusement pas, parce que à l'époque où j'ai commencé mes études à l'Union soviétique, à l'école centrale de Moscou, qui était près du conservatoire, et en fait tout le monde a été, si vous voulez, entraîné pour des concours. Donc, la musique de chambre, l'orchestre, c'était pour les gens, si vous voulez, qui pouvaient pas bien jouer. Donc, j'ai quitté l'Union soviétique, j'ai fait mes études à Londres, Collège Royal de Musique. Ce qui m'a impressionné le plus, mes premières impressions, c'est quand j'ai vu un altiste qui a dit, tu sais, j'ai gagné le place de jouer à London Symphony Orchestra gratuitement pendant un an. Il avait, je sais pas, 300 personnes qui voulaient cette place. Je me dis, mais comment tu voulais jouer dans l'orchestre? Il dit oui.
Comment justement, quand vous avez quitté l'Union soviétique pour la première fois, que vous êtes retrouvé, donc c'était Londres?
Non, c'était Paris d'abord.
C'était Paris d'abord. Ouais. Paris d'abord. Musicalement, vous arrivez là-bas avec, j'imagine, plein d'idées, plein de choses en tête déjà. Quelle sensation? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu une sorte de raz-de-marée vous arrivant dessus, d'approches différentes, de musiques différentes? Comment s'est faite cette entrée dans une nouvelle page de votre vie? Ou peut-être pas, finalement.
Plutôt, si, certainement, mais plutôt esthétiquement, je dirais. Parce que je suis venu à Paris et j'ai passé 6 mois me balader dans Paris, en fait. Donc je connais bien, très 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 bien cette ville, parce que je me suis promené partout à pied et j'ai visité des musées. En fait, j'ai très très peu travaillé le violon parce que ça m'intéressait pas trop de faire le gamme dans cette ville magnifique. Hein. Je suis allé à l'opéra, j'ai écouté des concerts, j'ai découvert le monde de musique du monde, du jazz.
Est-ce que ça a remis en question certaines choses que vous aviez en vous sur la musique? Vous avez dit effectivement, finalement, c'est plus ces choses-là, plus que des musiciens ou d'autres choses qui vous ont... Vous avez dit, j'ai peu joué presque en arrivant au début à Paris. Est-ce que ça a remis en question des idées que vous aviez sur la musique avant d'arriver?
Oui, certainement. C'est... Je dirais que j'ai complètement perdu cet esprit sportif de musique qu'on a eu, malheureusement. C'est pour ça que je suis un peu contre cette idée des écoles russes, parce que pour moi, à part de très très grands violonistes qu'on a eu, comme Oistrakh, comme Leonid Kogan, etc., après, malheureusement, c'est devenu un petit peu trop sportif et sans âme.
Mais la façon dont vous en parlez, est-ce que ça veut dire que parfois même vous, vous êtes interrogé à titre personnel sur votre envie? Est-ce que par exemple, il y a eu un moment en arrivant où vous aviez envie, pourquoi pas, d'arrêter la musique tout simplement? Parce que vous parlez un peu avec nostalgie tout ça, de choses essentielles qui sont du passé, qu'on ne peut plus retrouver,
cette compétition.
Est-ce que ça, vous, même personnellement, ça vous a...
Si, on peut le rêver, on retrouve plein de fois sur scène. J'ai fait régulièrement écouter mes amis, mes collègues, et des très, très grands musiciens, des magnifiques concerts.
Oui, ça vous a pas empêché d'enregistrer des listes, de faire des concerts?
Oui, non, pas du tout, c'est juste moi, je sentis que cette manque de sensibilité, en fait, qui était remplacée par des moyens techniques. C'est de ça que je parlais, que j'avais envie de toujours échapper, en fait.
Comment vous choisissez vos répertoires? Ce que vous enregistrez, ce que vous avez envie de jouer, est-ce que ça se fait progressivement, parfois par hasard, par des rencontres, ou vous avez vraiment en tête assez précisément ce vers quoi vous voulez aller à chaque fois? Vous avez des phases, peut-être?
Oui, peut-être. Ouais. C'est un peu difficile à dire.
L'obsession,
comme je vous ai dit, le Ravel, ça a été la proposition de Pierre-Émile Barbier. Et le Tchaïkovski, j'avais très envie d'enregistrer. En fait, maintenant, j'aurais bien enregistré l'intégrale de Saint-Saëns, le compositeur que j'adore, d'ailleurs, qui est très lié avec Tchaïkovski.
Là, vous aviez enregistré, c'était l'année dernière, un disque avec votre père.
Oui.
C'est toujours, j'imagine, c'est quelque chose qui est peut-être difficile à décrire, mais quand quelqu'un est son père, donc avec le rapport père-fils de n'importe quel père avec n'importe quel fils, et en même temps un musicien, enfin un chef d'orchestre illustre, etc. Donc quelqu'un que vous auriez pu connaître en écoutant ses disques si ça n'avait pas été votre père. Quand on se retrouve comme ça à travailler avec lui, quel est le type de relation ? Est-ce qu'on oublie, enfin si, on ne peut pas l'oublier que c'est son père, mais est-ce qu'on a, comment on arrive à décrire un peu cette relation unique de, dans la musique, dans l'art, quelque chose de si intime, avec d'un côté, bah, on travaille avec un chef comme si c'était n'importe quel autre chef, mais non, ce n'est pas n'importe quel autre chef.
C'est son père. C'est vrai, ce n'est pas n'importe quel autre chef, mais c'est surtout parce que ce n'est pas n'importe quel autre chef dans le sens musical et pas dans le sens relationnel. Et bien sûr, j'ai appris énormément de choses de lui. Bon, c'est vrai que j'étais entouré de la musique depuis que j'étais né. Et je me souviens, on a eu à la maison le plus grand collection d'LP de l'Union soviétique. Parce qu'il a toujours... sa vie, ça a été extraordinaire, surtout pendant l'époque du communisme. Parce que le gouvernement, il prenait, il me semble, 95% de son cachet. Et pour le reste, il a toujours acheté des partitions et des disques. Ouais. Donc on avait à la maison, on a toujours une énorme collection de disques. Et comme il partait, je me souviens, j'étais très petit, il partait toujours en tournée avec ma mère. Et j'ai passé des journées à écouter des LP.
Est-ce que j'allais vous demander votre rapport avec justement avec le disque, avec l'objet, avec l'enregistrement?
Et je faisais genre une semaine de l'intégrale de Beethoven, j'écoutais toutes les symphonies, c'était magnifique. J'avais vraiment de la chance, surtout à cette époque, à l'Union soviétique, parce que par exemple mon père, il m'a raconté comme il était petit, il était l'élève du conservatoire de Moscou. Dans la bibliothèque, ils sont reçus le Petrouchka de Stravinsky. Et il voulait absolument le voir. Donc, elle est allée à la bibliothèque, elle a demandé est-ce que je peux prendre ça avec moi à la maison. Elle dit non, vous ne pouvez pas. Il n'y avait pas de machine photocopie à l'époque, bien sûr. Donc, il est allé pendant quelques jours, il a copié à la main le Petrouchka de Stravinsky pour connaître le. Pour connaître la musique. Et bien sûr, maintenant, c'est dans les sangs.
Donc. Justement, ce rapport avec le disque, c'est quelque chose qui vous a toujours suivi dans votre éducation musicale ensuite, quand vous êtes parti de Moscou, quand vous êtes allé à Paris, à Londres, est-ce que vous avez toujours eu un rapport particulier avec, vous racontiez à l'instant que vous faisiez des semaines entières à écouter telle ou telle chose, est-ce que vous étiez un petit peu glouton comme ça ensuite, soit par rapport à un interprète que vous vouliez absolument acheter plein de disques, etc., ou non, vous avez eu aussi des phases Et comment d'ailleurs, quel mélomane vous êtes aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes pareil aussi ?
Oui, c'est vrai que j'écoute beaucoup moins de violon, un peu moins de musique classique en général. Mais si, j'avais collectionné en fait l'enregistrement j'ai tout l'enregistrement de Chrysler, de Enescu, de Manouin, bien sûr.
Comment vous voyez justement pour quelqu'un attaché comme ça au disque ? L'époque actuelle, la dématérialisation de la musique, le téléchargement, l'évolution, la façon dont même les plus jeunes découvrent et consomment, pour utiliser un mot un peu laid, la musique, de juste écouter une piste comme ça, par-ci, par-là, plutôt que d'avoir un objet, un album. Est-ce que c'est l'évolution des choses ? Mais quel regard vous portez sur cela ? Ça vous...
Bah, je trouve qu'il y a deux côtés. Moi, je trouve que c'est très très bien parce que c'est très accessible. Hein. En étant n'importe où, on peut télécharger très très vite n'importe quel morceau de musique ou d'avoir. C'est la même chose comme je vous disais tout à l'heure à propos de Petrouchka, histoire de Petrouchka et mon père. Maintenant, on appuie le bouton, on a le partition de Petrouchka en 2 secondes. Seule chose que moi je trouve, c'est on peut pas. On n'a pas de temps de digérer toutes ces informations et vraiment de le sentir, tout ça. Et c'est très pratique. Moi aussi, j'ai du livre dans mon iPod pour l'avion. Moi, je trouve ça très pratique. Mais par contre, on ne peut pas comparer ça avec des grandes éditions sur le magnifique papier du Japon ou des illustrations de grands peintres. C'est incomparable.
Vous avez parlé de votre père avec sa collection de disques. Quel regard vous portiez sur le musicien, sur le chef d'orchestre quand vous étiez jeune ? Vous réalisiez un peu ce qu'il représentait, ce qu'il faisait, etc. ou pas totalement, ça s'est fait progressivement ?
C'est un peu difficile à répondre à cette question. Parce
avec
que...
le recul, peut-être, parce que non.
Parce que c'est quelqu'un très, très simple, en fait. Mmh. Donc, c'est difficile de se rendre compte.
Mais quand on s'engage dans une voie, alors vous n'êtes pas chef d'orchestre, mais sur une voie un peu similaire dans la musique. Donc, vous n'êtes pas devenu boulanger, donc vous avez quand même un sujet, on va dire, de conversation.
Oui, j'avais pas de choix, parce que j'avais vraiment envie de faire de la musique.
Alors, voilà, mes parents
ne voulaient pas. Mes parents ne voulaient pas du tout. Pendant 3 ans, j'ai demandé que je jouais le violon. J'ai commencé apparemment, je ne me souviens plus, mais apparemment, j'avais 3 ans quand j'ai commencé de demander le violon, et j'ai reçu le violon qu'à l'âge de 7 ans.
Progressivement, est-ce que votre père, finalement, vous parlait de votre éducation musicale, de votre violon, de tout cela, ou c'est toujours resté...
Non, c'est toujours resté un peu... Non, il ne m'a jamais parlé de comment je dois jouer ou quel genre de répertoire, mais on a beaucoup discuté de la musique, donc il a partagé, si vous voulez, ses points de vue, ses goûts musicaux, qui m'a beaucoup influencé.
Vous avez eu des grands débats, des grandes discussions.
Non, jamais.
Un peu violentes.
Pour revenir à cet enregistrement qu'on a fait, c'était très spécial pour moi de jouer avec lui, surtout le premier concert de Shostakovich. Parce que, comme on a commencé, il m'a dit, tu sais, comme je faisais les premières répétitions avec Oistrakh, Shostakovich, il m'a dit ça dans cette mesure.
Ça met un peu la pression quand même, non?
La pression, bien sûr, mais c'est surtout, j'ai pensé quelle chance j'ai.
Ouais. Est-ce que c'était un moyen aussi de toucher un peu ce dont vous parliez tout à l'heure, cette période oubliée, etc. C'est-à-dire en enregistrant avec lui une œuvre comme ça, c'était aussi un moyen, comme vous dites, de chance, mais de se retrouver finalement dans le cœur de cette création même de cette,
oui, bien sûr, bien sûr.
De cela.
Et même pas enregistrement même, mais pendant les répétitions, pendant le concert, qui est d'ailleurs, c'est très particulier en fait le monde d'enregistrement de concert. Moi je trouve qu'il faut faire plus des enregistrements live.
On perd beaucoup de choses quand c'est trop enregistrement pas live, studio, c'est quelque chose qu'on...
Non, au contraire.
Ah, c'est l'inverse,
on ajoute beaucoup plus.
D'accord.
Parce qu'on n'a on a pas le droit de se tromper, on n'a pas on ne peut pas avoir des notes fausses, qui est tout à fait humaine, en fait.
Vous, donc, un peu discophile, quand vous préparez un enregistrement, est-ce que vous avez plutôt tendance, ou même un concert, à écouter beaucoup les versions du passé de telle ou telle œuvre, ou non, au contraire, d'essayer d'oublier les versions de référence pour vraiment... vous les avez déjà en tête. Comment ça se passe ? Parce qu'il y a certains solistes, certains musiciens qui ont plutôt tendance à se replonger dans les œuvres dites essentielles, les enregistrements essentiels de telle œuvre, avant de l'aborder, et d'autres au contraire qui préfèrent couper et oublier et vraiment rester juste seul avec la partition et éventuellement les...
Je dirais les deux. Je dirais les deux parce que ça dépend dans quel répertoire. Et ce qui est difficile, c'est libérer en fait de toutes les poussières, comme j'appelle poussière, que on a. Ça peut être poussière musicale, hein, sentimentale, émotionnelle, qu'on ajoute. On ajoute plein de choses dans des œuvres, notamment dans la musique de Ravel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Parce qu'il était tellement précis sur les choses qu'il a écrites, sur le changement, sur le tempo de métronome. Si c'est marqué 132, c'est vraiment 132, c'est pas 134. Et c'est vrai, si on fait des essais avec le tempi, après on se rend compte, c'est vraiment ça, cette fameuse histoire de Toscanini qui a fait qui a joué le Boléro et qui l'a refusé après, il a pas donné le droit d'interpréter ses œuvres après parce qu'il a pris ça trop vite, hein, et que c'était marqué le tempo des métronomes. Donc moi je trouve que c'est très important de essayer le plus possible de rentrer dans l'univers du compositeur, chaque compositeur qui en joue. Et bien sûr, il y a des magnifiques enregistrements, et j'écoute toujours, mais j'écoute pas tout, et peut-être pas tout de suite, pas dès qu'on commence de travailler l'œuvre.
Vous avez parlé un peu de l'éclectisme, que vous écoutiez pas que de la musique classique. Je crois que vous faites partie aussi d'un ensemble avec des musiciens colombiens.
Oui.
En bar.
Oui, un bar. C'est le groupe des musiques latino-américaines qu'on a créé avec mes amis, qui sont... On est tous parisiens, en fait. Mais tous les autres, tous les trois, ils sont colombiens, des très, très grands musiciens. Francisco González, qui est guitariste et compositeur. Nelson Gomez, qui est le grand virtuose des guitarones. Et Juan Fernando García, qui est le percussionniste et aussi très, très bon flûtiste. Et le professeur au conservatoire Claude Debussy, également. Voilà, on s'est rencontrés, on a décidé d'essayer de faire ce genre de musique. Moi, je trouve ça absolument remarquable parce qu'il y a des très, très grands compositeurs qui sont très, très peu connus. Et c'est vrai que c'est pas du tout la musique classique, mais bon, moi, je vois pas, en fait, des frontières. De la musique, il y a de bonnes musiques et de mauvaises musiques. Hein. Il n'y a pas celle qui écoute l'électro qui ne peut jamais écouter le Beethoven.
Est-ce que c'est important pour vous de faire ce genre justement de collaboration, même si c'est un choix, mais c'est des sortes quoi de bulles d'air aussi pour vous, de choses d'oxygène un petit peu, de sortir. Vous pensez justement que c'est trop cloisonné encore, que les musiciens parfois sont trop cloisonnés Parce qu'on est quand même dans une époque où les gens ont tendance justement à peut-être avec la circulation très rapide de la musique. Avec
non, c'est tout simplement de la musique. Ça fait partie. On change, bien sûr, je change le manière de jouer, le style de jouer, mais c'est toujours de la musique. On fait toujours de la musique.
Vous avez envie de quoi dans les mois et les années à venir en termes d'enregistrement, au disque ou en concert? Est-ce que vous avancez comment petit à petit, jour après jour? Vous avez comme ça des envies que vous voyez à long terme, en termes de collaboration, en termes d'enregistrement, en termes de concert? Tous ces projets-là, comment ça...
Bah pour l'instant, j'ai replongé dans, par exemple, dans le concerto d'Elgar, que j'aime beaucoup, et j'ai une grande passion en général pour la musique anglaise. Et pour l'instant, c'est Elgar Saint-Saëns.
Il y aura des enregistrements normalement qui vont suivre, peut-être?
Peut-être bien, oui.
D'accord. Bien, je vous remercie, Sacha. Je rappelle donc que votre album Tchaïkovski sort chez Delos, l'intégrale des œuvres pour violon et piano, et que les œuvres de chambre de Ravel sort chez Praga. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. We'll be right back.
radiobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.